Commençons. Pour ce temps que nous allons passer ensemble, nous allons appeler l'Esprit Saint pour qu'il nous donne de quoi nourrir notre cœur et notre existence à la contemplation du visage de la miséricorde. Miséricordiez-vous tous, tel que le Saint-Père François nous propose de le vivre pour cette année de la miséricorde. Rappelons l'esprit intérieurement. Soyons audacieux. Père Marie-Eugène disait qu'il est notre ami, notre guide, notre maître. Passons aussi par son intercession, puisqu'il disait que il voulait demander pour nous l'Esprit Saint. Oui, viens, Esprit Saint, remplis nos cœurs, allume en nous le feu de ton amour pour que nous vivions de toi. Nous soyons aussi nous-mêmes des flammes de miséricorde dans le monde où nous sommes, dans la mission où nous sommes envoyés. Notre-Dame de Sainte-Garde, priez pour nous. Alors, je vais proposer de vous faire un petit parcours sur Miséricordiez-vous tous. Donc ce texte de la bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde. Vous savez que toujours ce genre d'initiative de la part du Saint-Père a un impact de grâce particulière donnée à l'Église de Dieu, quel que soit le type de proposition, on pourrait dire, qui est fait par le Saint-Père à l'Église, comme année jubilaire, comme démarche particulière. Il y a toujours un don. Hein. L'Esprit dit quelque chose à l'Église, aux Églises, et nous avons à recueillir la grâce. Donc c'est dans cet esprit-là que je vous propose ce regard sur ce texte. Ce n'est qu'un texte de démarrage d'année, donc il ne faut pas non plus le grossir dans son impact, ni sa qualité du point de vue du magistère ordinaire du Saint-Père, mais son poids, hein, comme porte d'entrée, comme indication pour vivre ce temps de miséricorde qui est offert par Dieu à l'Église. Et dans une petite introduction, je dirais ceci: le pape François est le pape de la joie de l'Évangile par sa parole et par ses actes. Eh bien, il devient aussi celui de la joie de la miséricorde. La joie de la miséricorde qui transparaît dans la parole et les œuvres du Christ. Miséricordiez-vous tous. Hein, c'est ce qui est dit dès les premiers mots. Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. La joie de la miséricorde, c'est la vision de Dieu par la foi qui regarde le visage du Christ révélateur et sauveur. Qui m'a vu a vu le Père. La force de son amour, la condescendance de cet amour sur notre misère. Alors c'est ce que dit le Saint-Père juste après: le mystère de la foi chrétienne est là tout entier. C'est ça, c'est impressionnant d'entendre ça. le mystère de la foi est là tout entier, comme en sa racine, on pourrait dire, dans la miséricorde du Père qui nous est révélée sur le visage de Jésus, c'est-à-dire dans la personne de Jésus. Alors connaître Dieu, la perfection de sa nature qui est amour, se penchant sur notre petitesse, vous voyez, le Saint-Père nous dit, c'est vital aujourd'hui, pour l'Église, devant les inquiétudes des temps actuels, des hommes de notre génération. C'est, on pourrait dire, la raison majeure du jubilé. Et le Saint-Père continue, le Père riche en miséricorde, Éphésiens 2:4, après avoir révélé son nom à Moïse comme Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, Exode 34:6, nous l'avons déjà regardé, hein, cette révélation du nom à Moïse, n'a pas cessé de faire connaître sa nature divine de différentes manières en de nombreux moments. Vous voyez, sa nature, elle est révélée en différents moments, de nombreux moments, et puis lorsqu'est venue la plénitude des temps, selon Galates 4:4, quand tout fut disposé selon son dessein de salut, il envoya son fils né de la Vierge Marie pour nous révéler de façon définitive son amour. Donc on a une clé d'interprétation qui est extrêmement théologique. Hein, ça paraît à première lecture un peu des idées générales, mais si on y regarde de près, ça nous dit comment, en fait, tout est miséricorde dans le dessein du Seigneur, dans l'histoire de la création, dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire du monde, voyez, dans tout cette dynamique, en quelque sorte, qui a été conçue par Dieu dans son cœur, justement, dans son amour miséricordieux, et qui se révèle pleinement dans le Christ Jésus. Qui le voit, a vu le Père, à travers sa parole, ses gestes et toute sa personne, et là il fait allusion à Dei Verbum 4, Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu. Et là il y a la signature aussi du pape François, quand il dit « à travers sa parole, ses gestes, toute sa personne ». Il insiste beaucoup sur le caractère concret des actes, des paroles, des événements, de tout ce qui concerne en quelque sorte le Christ Jésus. Tout est révélation de l'amour du Père, de la miséricorde de Dieu. Vous voyez, cette introduction, c'est important. On a déjà, en quelque sorte, comme une sorte de ligne de fond, très simple. Qu'est-ce que nous pouvons faire pendant cette année, la miséricorde? Eh bien, première chose, contempler le mystère, vous voyez, dans le visage de Jésus, qui est l'accomplissement de toutes les Écritures, de toute l'histoire des annonces, des prophéties, de tout ce qu'a fait le Seigneur pour arriver à ce point culminant du temps, vous voyez, qui dure en quelque sorte, qui se déploie depuis la résurrection du Seigneur, ce déploiement du mystère pascal qui va jusqu'à la Pentecôte, hein, dans l'histoire de notre Église, de notre temps, jusqu'à la fin du monde. Donc il y a quelque chose de très simple et en même temps d'extrêmement lumineux. Parce que quoi qu'on fasse, on peut parler des œuvres de miséricorde, on peut parler de ceci, on peut parler de cela. Il y a une sorte de point focal qui est très simple, le visage de Jésus. Parce qu'en lui, tout. En lui, j'ai la révélation totale de la miséricorde du Père. J'ai la révélation totale de ma destinée, de la destinée même de l'humanité. Oui. Donc c'était le premier point. Le deuxième point qui le déploie, parce que ce n'est pas vraiment autre chose, c'est le numéro 2 de Misericordiae vultus, nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde, elle est source de joie, de sérénité et de paix, elle est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. Alors c'est ce deuxième point, ou ce premier point après l'introduction, si vous voulez, c'est que la miséricorde, c'est un mystère. C'est le mystère de Dieu tel qu'il est en lui-même et tel qu'il se révèle à nous en se penchant en quelque sorte sur nous, en réalisant quelque chose qui est la création de tout ce qui est créé, voilà, création, et puis en sauvant sa création, en allant jusqu'au bout de son dessein créateur, en nous récapitulant dans le Christ Jésus, comme on l'a dit pendant la messe de ce midi. Donc miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La condition de notre salut, c'est ce qui est dans le cœur de la Trinité. Et c'est de réaliser notre vie pleinement dans le cœur de la Trinité. Oui. Alors, vous voyez, ce mystère, c'est important en fait de le comprendre, vous voyez, comme mystère de Dieu et mystère de tout ce que Dieu fait pour nous, du salut de l'homme. La miséricorde, c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. Voilà une autre manière de le dire. Et là, on pourrait voir le mystère de l'incarnation. Alors, c'est bien avant, mais bien sûr, parce que toutes les visites de Dieu depuis le moment créateur jusque, vous voyez, dans la visite par excellence qui est la venue du Fils de Dieu en notre chair, ben oui, bien sûr, c'est tout visite de Dieu, mais vous comprenez que toutes les visites qui ont anticipé la grande visite où Dieu lui-même se fait l'un de nous, vous voyez, se fait chair parmi nous, vous voyez, il vient à notre rencontre. On peut voir, en tout cas, le mystère de l'incarnation, et même le voir dans son accomplissement, parce que l'incarnation, elle est pour la rédemption, pour que nous puissions être sauvés et récapitulés en lui. Donc, vous voyez ce lieu profond. Et notre joie, elle est là. Hein. Si nous sommes chrétiens, si nous sommes pasteurs, vous voyez, si nous avons un message de miséricorde à donner, c'est cette joie de dire, mais voilà, c'est notre vie même. C'est le lieu même, la source même de notre espérance, de notre joie. Parce que c'est la source, la condition de notre salut. Et le Saint-Père le redit autrement, et c'est encore bien Pape François, la miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il jette un regard sincère sur le frère qu'il rencontre sur le chemin de la vie. Alors, ce n'est pas simplement le mystère de Dieu qui nous fait miséricorde, c'est le mystère de la miséricorde qui vient habiter notre cœur pour que nous soyons des flammes de miséricorde, des témoins de la miséricorde, des acteurs de la miséricorde. Et tout de suite, ça vient. Et ça, le Saint-Père, il est comme ça, le pape François, je trouve. C'est pas comme le pape Benoît XVI, qui pouvait voir le mystère et l'exprimer avec une dextérité, une capacité, vous voyez. Chez le pape François, très vite, tout de suite, presque, oui, il vient à dire comment c'est chez nous, comment c'est pour nous, comment c'est dans notre existence concrète. Oui, tout de suite, le frère vient. C'est l'acte, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il jette un regard sincère sur le frère qu'il rencontre sur le chemin de la vie. Dieu vient à notre rencontre, c'est nous-mêmes dans la rencontre avec le frère. C'est simple et en même temps c'est fort. La miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme. Et oui, pleinement dans le mystère du Christ Jésus, Dieu fait homme. pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché, c'est pour nous les hommes et pour notre salut que Dieu s'est fait homme. Eh bien nous, nous avons à conduire les hommes, conduire les âmes à Dieu, disait le père Marie-Eugène, oui, conduire à ce que chacun puisse ouvrir son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours malgré les limites de nos péchés. Vous voyez comment il y a une sorte de puissance, de rapport entre le mystère de Dieu, miséricorde, et le mystère de notre vie qui doit rayonner la miséricorde. On est toujours, en quelque sorte, dans les fondements, mais c'est déjà les fondements qui deviennent notre existence même. Donc, vous voyez, le mystère même de la Trinité, Dieu vient à notre rencontre, et nous-mêmes, nous avons à réaliser le même mouvement. La joie de la miséricorde, vous voyez, elle est source de joie, de sérénité, de paix. Notre joie, notre paix, elle sera dans le mouvement de la miséricorde qui vient de Dieu et qui habite notre cœur, qui doit être le mouvement de notre existence même. Et avec cela, on peut lire le début du numéro 3 que je vous ai mis. Oui, ça fait un tout. Il y a des moments où nous sommes appelés de façon encore plus pressante à fixer notre regard sur la miséricorde, dit le Saint-Père, afin de devenir nous aussi signes efficaces de l'agir du Père. C'est ce qu'on vient de dire. Et bien, il y a des moments où il y a une nécessité plus pressante. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu ce jubilé extraordinaire de la miséricorde. Comme un temps favorable pour l'Église, afin que le témoignage rendu par les croyants soit plus fort et plus efficace. Donc, vous voyez, le but, ce n'est pas simplement de regarder la miséricorde. Oui, c'est cela, l'année de la miséricorde, en un sens, mais dans le but que nous soyons, vous voyez, des témoins, des croyants qui sont témoins, et par leur joie, par leur miséricorde, vous voyez, des témoins plus forts et plus efficaces de l'amour qui est en Dieu, qui s'est révélé pleinement dans le visage de Jésus. Donc vous voyez, ce premier point, c'est, on a déjà tout d'une certaine manière. Mais comprenez bien que on est tout de suite, on n'est pas dans quelque chose qui est un petit peu général, qui est un peu déconnecté de la vie. On est tout de suite dans la racine qui nourrit notre existence. Et je crois, moi, que c'est hyper lumineux pour notre existence. Parce que si nous sommes trop vite dans le faire, vous voyez, des œuvres de miséricorde, peut-être que ce sera un moyen d'accrocher les gens, hein, d'aller tout de suite à des choses à faire. C'est possible. Mais vous voyez, il faudra que nous soyons à même de situer, en quelque sorte, ce faire dans quelque chose, en fait, qui est nourri par la puissance même de la miséricorde de Dieu. Ce qui n'est pas simplement à faire ceci, ou à réaliser, ou à pouvoir, vous voyez, faire quelque chose. Mais le faire dans la puissance même, vous voyez, de l'amour qui vient de Dieu. Alors oui, il y a un changement possible. Il y a une sorte d'espérance qui est basée sur la puissance de Dieu. Alors, je passe très rapidement sur le 8 décembre. Bon, ce qui est très beau, c'est que le 8 décembre, c'est l'Immaculée Conception. Alors, vous savez que l'anticipation du mystère du salut est dans le cœur de Marie. C'est une sorte de réalisation en anticipation du mystère de salut qui est pour toute l'humanité. Et le 8 décembre, avec l'Immaculée Conception, c'est une sorte de lieu focal, hein, de foyer, on pourrait dire, de ce qui doit se réaliser pour l'Église tout entière. Être saint et immaculé en sa présence dans l'amour, comme on disait à midi. Donc il y a quelque chose de fort là, et qu'on commence par là, ça nous redit comment le jubilé de la miséricorde est là comme point focal le mystère pascal de Jésus. le visage de Jésus qui va jusqu'au bout de l'amour. Mais on peut le voir comment ça racine dans le mystère de Marie et l'Immaculée. Et puis le 8 décembre, c'est Vatican II, la clôture de Vatican II. Et il faut comprendre que la clôture de Vatican II, c'est un départ, hein, que c'est une nouvelle étape. Et c'est un petit peu ce que dit le Saint-Père. C'est vraiment... et l'Église ressent le besoin de garder vivant cet événement de Vatican II, c'est numéro 4. C'est pour elle que commençait alors une nouvelle étape de son histoire. Et donc c'est dans cet esprit-là que Jean-Paul II avait bien mis en valeur, hein, que Benoît XVI a voulu continuer dans le prolongement de Jean-Paul II à sa manière, et on voit que le pape François y redit, hein, ce concile Vatican II. C'est pas simplement l'évoquer, c'est nous sommes dans la dynamique de ce concile. Et il souligne comment cette évangélisation nouvelle, cette nouvelle évangélisation, en fait c'est l'évangélisation de toujours, mais comme une étape nouvelle, et nous sommes là. Et alors, la fin du numéro 4 est intéressante, animée par des sentiments de gratitude pour tout ce que l'Église a reçu et conscient de la responsabilité qui est la nôtre, maintenant, nous passerons la porte sainte, sûrs d'être accompagnés par la force du Seigneur ressuscité qui continue de soutenir notre pèlerinage, que l'Esprit Saint qui guide les pas des croyants pour coopérer à l'œuvre de salut apportée par le Christ, conduise et soutienne le peuple de Dieu pour l'aider à contempler le visage de la miséricorde. Et ce sera cette vie dans l'esprit, on pourrait dire, voyez, cette actualisation du mystère pascal de Jésus dans notre vie par l'action de l'esprit, voyez, qui devra en quelque sorte être l'année de la miséricorde. Voyez, contemplation du mystère du Christ pour notre vie concrète vers le frère, vers le plus lointain, à cause de Dieu. Donc les numéros 6 à 9 disent comment cette vie de l'Église sous l'action de l'Esprit, elle se fait selon l'Écriture, selon tout le développement de la miséricorde et qui s'est révélé au long de l'histoire dans l'Ancien Testament. Et là, puisque... Jean-François Lefebvre vous a parlé surtout de l'Exode. Je signale que le pape François développe beaucoup la prière des psaumes. C'est un autre aspect, si vous voulez, de cette orientation que donne le Saint-Père à partir de l'Ancien Testament, et en particulier à partir du psaume 135-136, qui a ce refrain « Éternel est son amour ». Il nous dit donc comment toute l'histoire du salut peut être relue, ce psaume nous dit cela, relue sous la lumière de l'amour éternel de Dieu et qui se poursuit tout au long de l'histoire, depuis la création, en passant par le salut au moment du passage de la mer Rouge, en passant ensuite, voyez, par tous les événements, hein, de l'histoire du peuple juif. Et même le Saint-Père dit que ce psaume, puisque c'était était chanté au moment de la Pâque, hein, le grand Hallel, il semble qu'il l'ait chanté justement, ou qu'il l'ait prié en tout cas, au moment où il a institué l'Eucharistie, où il est allé pour le sacrifice, hein, il est sorti pour Gethsémani. Donc on pourrait dire que ce psaume peut être comme médité dans notre vie ecclésiale, comme dans le cœur de Jésus qui donne l'Eucharistie et qui, en fait, entre à réaliser le sacrifice qui est célébré dans l'Eucharistie. Donc c'est fort. Éternel est son amour. On peut l'entendre en quelque sorte en célébrant l'Eucharistie, en, en, en actualisant le mystère pascal dans notre existence, en particulier dans notre sacrifice personnel, le culte spirituel qui est le nôtre, et puis même notre ministère pastoral pour les prêtres. Ce que je voudrais développer avec vous maintenant, c'est le numéro 10, parce que ça m'a paru très intéressant. C'est que la miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l'Église. C'est un nouveau point, mais en fait, ça ne fait que prolonger tout ce qui vient d'être dit à partir de l'Ancien Testament et qui, en fait, peut être développé, je ne l'ai pas fait, dans le Nouveau Testament, puisque le Christ, c'est le lieu même de la réalisation plénière de ce dessein de salut sur les hommes. Nous serons enveloppés dans la prière de nos frères. Alors, pilier qui soutient la vie de l'Église. Il y a quelques points qui me paraissent très intéressants. C'est concret. Vous voyez, ce pilier, ça va dans son action pastorale. Tout devrait être enveloppé de la tendresse par laquelle on s'adresse aux croyants. Dans son action pastorale. Dans son annonce et le témoignage qu'elle donne face au monde, rien ne peut être privé de miséricorde. Et le point, la crédibilité de l'Église passe par le chemin de l'amour miséricordieux et de la compassion. Donc vous voyez, quand j'ai entendu dire que dans une paroisse, on cherchait avec les laïcs comment vivre ces œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, donc comment s'engager concrètement dans l'année de la miséricorde, il y a quelque chose qui est important, c'est que la crédibilité de l'Église est en cause. Elle passe par le chemin de l'amour miséricordieux et de la compassion, c'est-à-dire entrer davantage dans le sens, la contemplation de ce mystère de compassion qui est en Dieu même, et puis dans la réalisation concrète dans des œuvres de notre paroisse ou de notre vie personnelle, c'est extrêmement important. Et la crédibilité de notre annonce, de notre témoignage, et même de notre action pastorale, passe par là. L'Église vit un désir inépuisable d'offrir la miséricorde, disait Paul VI dans Evangelii Nuntiandi. Moi, je vous dirais volontiers, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je vis d'un désir inépuisable d'offrir la miséricorde? En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que cette année de la miséricorde peut nous conduire à ce désir-là, c'est-à-dire à redécouvrir ce « je désire vraiment que la miséricorde puisse se réaliser vis-à-vis des gens auxquels je suis envoyé ». Peut-être avons-nous parfois oublié de montrer et de vivre le chemin de la miséricorde, dit le Saint-Père. Donc vous voyez, il y a déjà une sorte de regard sur nous-mêmes pour voir si ce chemin de la miséricorde, nous ne l'avons pas un petit peu oublié. J'avoue que personnellement, je m'aperçois, pourtant Dieu sait que c'est un mystère que nous aimons beaucoup à méditer, eh bien, je m'aperçois qu'il y a des domaines, des aspects de ce mystère que, finalement, j'ignore concrètement, j'oublie dans mon existence. Je pense que chacun de nous, nous avons un petit peu à reconnaître cela. L'Église, sa vie, voyez, elle comporte ce désir inépuisable d'offrir la miséricorde. Si on comprend vraiment qui est Dieu, son amour pour l'homme, sa condescendance, sa bienveillance, on doit communier à ce désir-là. D'une part, la tentation d'exiger toujours et seulement la justice a fait oublier qu'elle n'est qu'un premier pas, nécessaire et indispensable, mais l'Église doit aller au-delà pour atteindre un but plus haut et plus significatif. Vous voyez ? On peut avoir une mentalité d'exiger toujours et seulement la justice. Et le Saint-Père dit que c'est une tentation d'exiger toujours et seulement la justice. Jean-Paul II, déjà, dans Divers et Misericordias, se posait la question, la justice suffit-elle ? Peut-être que demain, on aura un petit écho de cela, peut-être pas, parce qu'on ne peut pas tout dire. Hein. Mais il disait, il répondait non. La justice, vous voyez, ne suffit pas. Parce qu'exiger la justice peut être une manière de réduire l'autre à être un adversaire qu'on peut maîtriser, pour le rendre dépendant ou insignifiant, que ce soit par haine, par rancœur, ou même par peur. Et on exigerait une justice qu'il nous devrait, etc. Et en fait, ce serait pour maîtriser la peur qu'il nous fasse du mal. On exige la justice, vous voyez, par peur que ça aille mal. Ou que, vous voyez, qu'on n'ait pas la correspondance au mal qu'il m'a fait. Et il y a quelque chose qui doit nous amener à ne pas vouloir rendre le mal pour le mal. Et ce serait une injustice que de vouloir faire le mal qu'on m'a fait à l'autre qui me l'a fait. Parce qu'en fait, s'il m'a fait une injustice à moi, de vouloir lui rendre ce qu'il m'a fait n'est pas une justice. C'est lui rendre l'injustice qu'il m'a fait. Et il faut découvrir en fait que peut-être demander la justice peut être quelque chose qui n'est pas une justice, alors qu'on dit qu'on veut égaliser le mal. Rendre le mal pourrait être, vous voyez, quelque chose, donc vouloir une justice qui fait un mal équivalent, peut être une véritable injustice. C'est important de comprendre en fait comment, si on ne fait pas miséricorde à celui qui nous fait du mal, finalement, on ne fait même pas la justice. Et que la justice, c'est d'aller plus loin, d'aller dans ce lieu où on fait miséricorde. On aime en plus, en surabondance par rapport à l'injustice qui nous a été faite, au mal qui nous a été fait. Plus loin, le Saint-Père nous le dira autrement, c'est, je vais vous y mener tout de suite peut-être, c'est au numéro 20, donc à la fin de la troisième page. Il fait il rappelle le rapport entre justice et miséricorde. Il dit que ce ne sont pas deux aspects contradictoires, mais deux dimensions d'une unique réalité qui se développe progressivement jusqu'à atteindre son sommet dans la plénitude de l'amour. Déjà dans cette phrase, il y a trois éléments, vous voyez, deux dimensions d'une unique réalité. Justice et miséricorde, ça ne s'oppose pas. Ces deux aspects, oui, mais d'une unique réalité. En Dieu, c'est très net, hein, puisque si vous vous rappelez la fin du manuscrit A de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle dit « À moi, il a donné la miséricorde infinie, et c'est à travers elle que je contemple toutes les perfections divines. » La justice elle-même me paraît revêtue de miséricorde. Vous voyez ? Pour être vraiment justice de Dieu, elle doit se faire miséricordieuse vis-à-vis de nous, dont toutes les justices ont des taches aux yeux de Dieu, dit-elle ailleurs. Vous voyez ? Donc, sa justice à lui, pour être juste selon son cœur de Dieu, il doit nous faire miséricorde. Et c'est ce que dit la petite Thérèse. Et lui qui s'est abaissé pour... je ne sais plus comment elle dit ça. Pour donné, je ne sais plus si c'est le fils prodigue, comment ne ferait-il pas pour moi qui suis toujours avec lui, qui suis le fils qui est resté fidèle. Donc elle manifeste comment, a fortiori, si moi je n'ai pas fait des choses extraordinaires, il me fera miséricorde à moi. C'est une sorte de manière de comprendre la justice. Voyez. Lui qui est juste, il sera condescendant à mon égard, quelles que soient mes faiblesses, mes pauvretés, mes misères. Extraordinaire de comprendre justice et miséricorde dans cet esprit-là. Et alors, c'est ce que dit le Saint-Père. Donc, une unique réalité qui se développe progressivement. Alors, la conscience de cette unité entre justice et miséricorde peut se déployer progressivement. C'est drôlement important du point de vue pastoral. Parce que on peut vouloir une justice qui est très distributive au départ. Et finalement, raisonnablement, ça marche. Donc il ne faut pas vouloir casser cela si c'est une marche pour aller plus loin. Progressivement, et dans notre existence, c'est vrai aussi. Pour que j'accepte de ne pas rendre le mal à celui qui m'a fait mal, c'est tout un chemin, en fait, de croissance spirituelle pour parvenir à aimer, à me sortir de mon mal, en quelque sorte, du mal qu'on m'a fait, pour aimer l'autre gratuitement, en surabondance par rapport, j'allais dire, en rapport même à la justice qu'il m'a faite. La surabondance doit être d'autant plus grande qu'il m'a fait une injustice plus grande. Donc, et ça demande une croissance, vous voyez, dans la conscience de ce qu'est véritablement la justice et l'unité que la justice doit avoir avec la miséricorde. Jusqu'à atteindre son sommet dans la plénitude de l'amour, et oui, et cette plénitude de l'amour, on la reconnaît dans le visage de Jésus, voyez, qui va jusqu'à mourir pour les pécheurs. Alors, le Saint-Père continue, c'est au début de la quatrième page. La justice est un concept fondamental pour la société civile, quand la référence normale est l'ordre juridique à travers lequel la loi s'applique. La justice veut que chacun reçoive ce qui lui est dû. Vous voyez cet aspect de justice distributive, juridique, et il y a quelque chose qui est un concept fondamental de la société. Il ne s'agit pas de nier cela. Pour sa part, Jésus s'exprime plus souvent sur l'importance de la foi que sur l'observance de la loi, de l'aspect juridique. Le père Coulange nous en a parlé dans sa conférence. Si vous vous souvenez, à partir du Nouveau Testament. C'est en ce sens qu'il nous faut comprendre ces paroles, lorsqu'à table avec Matthieu et d'autres publicains et pécheurs, Jésus dit aux pharisiens qui le critiquent, allez apprendre ce que signifie « je veux la miséricorde et non le sacrifice ». Donc, allusion à Osée 6.6 qui va être en fait comme en arrière-fond de cette manière de voir, de lire en quelque sorte la parole de Jésus dans l'Évangile. « En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Matthieu 9.13. « En face d'une vision de la justice comme simple observance de la loi » pharisiens, qui divisent entre justes et pécheurs, il y a des justes et des pécheurs, et les justes seront rémunérés, et les pécheurs seront rémunérés aussi, en fonction de leur péché. Eh bien, en face d'une vision de la justice comme simple observance de la loi qui divise, Jésus indique le grand don de la miséricorde qui va à la recherche des pécheurs pour leur offrir le pardon et le salut. Vous voyez, la manière dont il répond, on pourrait dire, il va chercher plutôt le pécheur pour lui donner ce qui lui manque, justement. Tandis que les justes n'ont pas besoin de ce surplus d'amour, vous voyez, qu'est miséricorde. Et ça ne veut pas dire qu'il ne les aime pas. Hein, comme disait la petite Thérèse, il sera juste envers moi, donc il me fera miséricorde même de mes pauvretés. Vous voyez ? Parce qu'en fait, je ne suis même pas digne. Même ma justice n'est pas au niveau de la justice qui correspond à la justice de Dieu. Et donc il doit obligatoirement me faire miséricorde aussi à moi. Mais Jésus dit, si ce sont les pécheurs qui ont besoin du médecin, je suis venu pour les pécheurs. Donc pour leur offrir gratuitement le pardon et le salut. L'évocation que fait Jésus du prophète Osée, « Je veux la fidélité dans le sacrifice », est très significative. Jésus affirme que la règle de vie de ses disciples, et pas seulement la sienne, la règle de vie de ses disciples devra désormais intégrer le primat de la miséricorde, comme lui-même en a témoigné, partageant son repas avec les pécheurs. La miséricorde se révèle une nouvelle fois comme une dimension fondamentale de la mission de Jésus, et le Saint-Père dit, de la mission de ses disciples, qui en fait sont des instruments de la mission de miséricorde de Jésus. Ne croyons pas que nous faisons autre chose que ce que Jésus fait comme sauveur. Et nous ne sommes pas sauveurs sinon dans la miséricorde qui sauve en Jésus. Et notre mission toute entière est à l'intérieur même de cette mission salvifique de Jésus, qui est révélation de la miséricorde de Dieu. Donc ce n'est pas l'observance de la loi qui sauve. Et si je fais bien, si je suis juste, si je suis vertueux, ça ne suffit pas. Même ma vertu ne suffit pas. Il faut que vertueux, je puisse encore être assez humble pour demander la miséricorde du Père. Il faut que je reconnaisse que ça ne suffit pas. Oh, vous me direz, mais si je crois, j'obtiens le salut. Mais oui, mais je l'obtiens gratuitement de la miséricorde du Père. Vous voyez, ma foi qui m'obtient le salut, elle entre dans la miséricorde du Père, dans ce Dieu miséricordieux qui fait grâce et qui a fait grâce en Jésus une fois pour toutes. Il s'agit de recevoir et non pas de dire, puisque je crois, j'ai droit. Mais la foi donne le salut, mais en ce sens que elle reçoit ce salut. C'est extrêmement fort, hein. Mais ce n'est pas l'observance de la loi qui sauve, mais la foi en Jésus-Christ, qui par sa mort et sa résurrection nous a donné la miséricorde qui justifie. Vous voyez, cette phrase, il faut aller la lire jusqu'au bout. Vous voyez, la foi qui reçoit cette miséricorde qui justifie. Oui. Il n'y a rien à faire. La justice, au sens de la justification, nous ne pouvons l'obtenir que par la miséricorde de Dieu. La justice de Dieu devient désormais libération pour ceux qui sont esclaves du péché et de toutes ses conséquences. La justice de Dieu est son pardon. Oui. Justice et miséricorde pour Dieu. Alors, 21, la miséricorde n'est pas contraire à la justice, mais illustre le comportement de Dieu envers le pécheur, lui offrant une nouvelle possibilité de se repentir, de se convertir et de croire, et donc d'obtenir le salut. Alors c'est fort, hein, quand on a le témoignage d'une sœur Sonia, qui au Liban nous dit, dans les conditions qui sont les nôtres, jusqu'où je dois aller pour dire les pécheurs qui sont en face de nous, je dois leur donner la miséricorde. On comprend que ce soit un vrai combat intérieur pour savoir, mais comment est-ce que je peux mettre en œuvre l'évangile de la miséricorde? Alors elle est déterminée, elle nous l'a dit, hein, déterminé à vivre l'évangile, à être témoin de l'évangile. Mais comment, dans la situation telle qu'elle est, alors qu'il meurt des enfants chaque jour, alors qu'on est dans une situation explosive où rien n'est sûr, alors la question reste posée. Hein. Et quand elle dit, mais moi, je n'ai pas peur. Elle nous a dit ça, hein, l'autre soir. Ça veut dire que son cœur est assez paisible pour accepter voyez, qu'un djihadiste lui demande raison de sa foi, en d'autres termes. Hein. Il m'a même parlé de ces Égyptiens qui ont été, à qui on a demandé « Est-ce que tu crois ?» et qui ont dit « Ah oui, nous resterons fidèles à Jésus » et qui ont été égorgés, filmés. Donc, elle a conscience que c'est chez elle. Et elle me disait en aparté que les événements de Paris rapprochent les choses de chez nous. Elle n'en disait pas plus, elle n'interprète pas plus. Hein. Mais elle a conscience que ce n'est pas simplement chez elle. Alors, la question se pose, et l'année de la miséricorde vient comme à un moment crucial, on pourrait dire. Vous voyez, qu'est-ce que ça signifie? Comment je devrais être témoin de la miséricorde? Alors, ce n'est pas en imaginant des situations radicales, vous voyez. Ce sera de réaliser pleinement l'engagement qui est le nôtre, notre consécration au Seigneur, on pourrait dire, vous voyez, comme accepter jusqu'à mourir notre travail là où nous sommes. C'est ça qui nous prépare à recevoir, si Dieu le veut, comme disait la petite Thérèse, le martyr. Martyr du cœur, martyr du sang, celui que le Seigneur voudra. Mais l'important, c'est d'être engagé dans la même dynamique de fond qui est de donner sa vie dans le lieu où nous sommes, dans la vie chrétienne qui est la nôtre, la consécration qui est la nôtre, la mission qui est la nôtre, point. Sans imaginer, vous voyez, des situations limites qui seraient que de l'imaginaire. On peut évidemment l'évoquer, mais si ça ne nous fait pas revenir à notre vie concrète, on reste, vous voyez, dans une espèce de lieu où nous ne vivons pas. Alors on peut se faire des idées, mais ce n'est pas l'idéal. Voilà, et je reviens au numéro 12, brièvement, avant d'aller tout à fait à la fin, à la mère de miséricorde. L'Église a pour mission d'annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l'Évangile. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire avec sœur Sonia. Vous voyez, elle a pour mission de ça, d'annoncer la miséricorde, cœur battant de l'Évangile, qu'elle doit faire parvenir au cœur et à l'esprit de tous. Alors là, c'est aussi un aspect fort du pape François. Vous voyez, il ne parle pas seulement pour les chrétiens. Vous voyez, le témoignage de l'Église doit être un témoignage pour les extrêmes, on pourrait dire, donc pour tous. Parce qu'en fait, la chose que nous vivons avec la grâce de Dieu, elle est vraiment faite pour tout homme. Nous sommes faits pour être témoins de la destinée réelle de tout homme, qui est d'être sauvé par Dieu, par pure miséricorde, ce qui se réalise dans le Christ Jésus. Et ça, c'est vrai pour tout homme, quelle que soit son existence, sa religion, son état de vie, sa capacité de comprendre, d'agir, etc. Oui. Nous sommes faits pour être miséricordieux. Et donc, annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l'Évangile, pour que ce message parvienne au cœur et à l'esprit de tous. L'épouse du Christ adopte l'attitude du Fils de Dieu qui va à la rencontre de tous sans exclure personne. Alors ça aussi, c'est vraiment une sorte de signature très claire du pape François, ce qu'il a à dire à l'Église aujourd'hui. Ça fait partie en quelque sorte de son message propre après Jean-Paul II, Benoît XVI et peut-être avant un autre, vous voyez, qui suivra. Mais c'est quelque chose d'assez caractéristique du pape François. De nos jours où l'Église est engagée dans la nouvelle évangélisation, le thème de la miséricorde doit être proposé avec un enthousiasme nouveau à travers une pastorale renouvelée. Il s'agit d'inventer. Mais d'inventer, attention, ce n'est pas simplement notre petite tête qui va inventer, d'inventer sous l'action de l'Esprit-Saint, qui est celui qui rajeunit, qui est la jeunesse de l'Église, comme dit Vatican II dans Lumen Gentium. Il est déterminant pour l'Église, pour la crédibilité de son annonce, de vivre et de témoigner elle-même de la miséricorde. Alors, vous voyez, c'est une responsabilité des chrétiens que nous sommes, des pasteurs que nous sommes, de vivre et de témoigner nous-mêmes, membres de l'Église, oui, de la miséricorde. Son langage et ses gestes doivent transmettre la miséricorde pour pénétrer le cœur des personnes et les inciter à retrouver le chemin de retour au Père. Il faut être convaincu, il faut être, comment dire, brûlé d'une certaine manière de la lumière et de la flamme de cet amour, et pour être témoin. La vérité première de l'Église est l'amour du Christ. L'Église se fait servante et médiatrice de cet amour qui va jusqu'au pardon et au don de soi. Regardez Jésus dans son mystère pascal, dans sa passion et sa mort. C'est ça. En conséquence, là où l'Église est présente, la miséricorde du Père doit être manifeste. C'est extrêmement puissant. Hein, vous voyez ? Alors nous, je crois que nous avons une sorte de responsabilité d'aller dans ce cœur-là. Nous ne demandons pas à nos chrétiens d'y être. Vous voyez ? C'est pas à leur, notre pastoral n'est pas de dire aux hommes d'y être. C'est d'abord notre responsabilité d'y être pour pouvoir être témoin de cela. Et que et ceux qui sont avec nous puissent en avoir une sorte d'écho et peut-être le découvrir alors d'une façon beaucoup plus profonde même que nous. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas d'abord un témoignage, vous voyez, de mission dans le faire, c'est d'abord une responsabilité de l'être pour pouvoir en témoigner. Et ça me paraît extrêmement fort dans le message du Saint-Père. Dans nos paroisses, les communautés, les associations et les mouvements, c'est très concret. En bref, là où il y a des chrétiens, quiconque doit pouvoir trouver une oasis de miséricorde. N'importe qui doit pouvoir trouver là, dans nos communautés, dans nos associations, dans nos paroisses, une oasis de miséricorde. Comment ? Alors là, on pourrait en parler peut-être. Parce qu'en fait, il faut inventer. Il faut. Et ce qui sera pour une paroisse ne sera pas pour la paroisse d'à côté, etc. Il y a même nos charismes propres qui peuvent jouer là-dedans. Vous voyez ? Parce que quelqu'un, comme le père Bruno Jollet, là, qui était venu, hein, c'est un type qui est un éducateur de rue, donc il accueille des gens dans son presbytère. Alors c'est un charisme tout à fait spécial. Le curé d'à côté, il ne peut pas. Rien faire. Je prends exprès un exemple un peu radical pour vous faire comprendre. Si on est un intellectuel, on aura beaucoup plus de mal, vous voyez, à faire des choses qui iront dans un certain concret qu'un autre, au contraire, il le sent. Il sent la chose et puis, sans parole, sans discours, en fait, il crée une sorte d'ambiance de miséricorde dans non seulement son presbytère, mais dans sa paroisse. Voilà. Chacun, avec son charisme propre, il y a quelque chose qui doit pouvoir passer. Et puis, ne pas vouloir faire quelque chose qui soit vraiment génial, qui brille. Non, on fait ce qui nous est donné, en quelque sorte, comme lumière et comme capacité de faire là où nous sommes. Ça, c'est génial. Alors, je vais tout de suite, pour terminer, à Marie, que notre pensée se tourne vers la mère de miséricorde, que la douceur de son regard nous accompagne en cette année sainte. Alors, on pourrait penser que c'est, vous savez, une bonne conclusion, bien tranquille, bien sympathique. On évoque Marie pour finir. Alors, moi, je crois que non. Je crois que la douceur du regard de Marie doit nous faire découvrir la tendresse de Dieu. C'est quelque chose d'extrêmement profond, à mon avis. Voyez, cette douceur de Marie, c'est-à-dire cette douceur féminine, cette douceur maternelle, elle doit nous enseigner quelque chose de la miséricorde de Dieu. Elle doit nous l'enseigner parce qu'elle est toute mère, et elle est mère de l'Église. Elle doit enseigner toute l'Église pour savoir comment vivre de la tendresse de Dieu. Voyez, il y a quelque chose, vous voyez, qui est spécifique de la mère. Vous voyez, qui dit quelque chose des entrailles de miséricorde de Dieu. Vous savez, les chachamim dans la Bible. Hein, ces entrailles, vous voyez, qui sont le sein maternel. Hein, le chachem, c'est le sein maternel. Donc il y a quelque chose qui, dans la femme, qui, dans la mère, nous dit quelque chose de cette miséricorde. Et ce n'est pas seulement pour les femmes, même si les femmes sont bien placées alors, pour le recevoir et pour le vivre, ça c'est vrai, leur féminité leur fait une sorte de capacité et donc de responsabilité pour en témoigner, hein. Mais c'est pour toute l'Église. C'est l'Église qui est l'épouse et la mère. Nous sommes l'Église. Donc nous avons à témoigner de quelque chose qui, en fait, trouve sa résonance excellente, son excellence, dans le cœur de Marie. Vous voyez, c'est très, très fort. Il faut aller dans ce lieu-là pour comprendre comment cette douceur, elle est quelque chose qui doit qualifier, en quelque sorte, notre être intérieur. Et alors le Saint-Père le dit avec quelques mots qui sont très beaux. Et encore, c'est « afin que tous puissent redécouvrir la joie de la tendresse de Dieu ». Oui, ce n'est pas simplement pour le découvrir nous-mêmes, c'est vraiment pour que tous, voyez, les plus pauvres, les plus petits, voyez, les plus massacrés, on pourrait dire, par la société, puissent redécouvrir quelque chose de la tendresse de Dieu. Personne n'a connu comme Marie la profondeur du mystère de Dieu fait homme, la profondeur de Dieu qui vient, voyez, chez les hommes, qui descend et dans sa condescendance, sa bienveillance pour l'homme, pour le sauver, voyez, le faire revenir à lui. Sa vie entière fut modelée par la présence de la miséricorde fait chair. Ça, c'est génial. Et là, je pense à Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort. Voyez. Cette vie toute mariale, en quelque sorte. C'est la vie de l'Église qui est toute mariale, en un sens, vous voyez. Il y a quelque chose de ça qui doit pouvoir être réalisé. Et c'est, en fait, réaliser le Christ, le Verbe fait chair. Vous voyez. Et la mère du crucifié ressuscité est entrée dans le sanctuaire de la miséricorde divine en participant intimement au mystère de son amour. C'est le mystère de la participation de Marie au mystère pascal, au pied de la croix, et puis en fait au mystère de la résurrection aussi. Vous voyez, cette montée au ciel avec son corps, cette participation plénière, on pourrait dire, au salut, c'est génial. Hein, c'est le signe d'espérance assurée, dit le Concile Vatican II, hein, à la fin de Lumen Gentium, signe d'espérance assurée pour nous. Les hommes. Alors, je ne vais pas dans le détail. Adressons-lui l'antique et toujours nouvelle prière du Salve Regina, puisqu'elle ne se lasse jamais de poser sur nous un regard miséricordieux et nous rend dignes de contempler le visage de la miséricorde, son Fils Jésus. Donc, le Saint-Père termine par le même mot par lequel il a commencé. Hein. Le visage de Jésus qui nous révèle pleinement la miséricorde de Dieu. Vous voyez, Marie nous rend dignes de contempler ce visage, son regard miséricordieux nous permet d'y accéder en quelque sorte. Voilà. Je m'arrête là. soir. Johan.